7h31, la série d'entrevues avec les candidats-candidats dans Bécancour. Nicolas Sorel se poursuit ce matin, toujours présenté avec la participation de Jocelyn Ouellet, que j'accueille. Bonjour Jocelyn.
Bonjour Éric.
Et notre invité aujourd'hui, le candidat du Bloc québécois, député sortant dans Bécancour, Nicolas Sorel, Louis Plamondon. Bon début de journée, M. Plamondon.
Oui, bonjour.
On vous parle au lendemain d'un autre débat radio que j'ai l'occasion d'écouter, celui-là dans votre patelin, Sorel-Tracy. Alors, content que ce soit l'exercice soit terminé ou il y en a encore?
Il reste un débat pour moi là, avec les producteurs agricoles ce soir à Nicolet, à l'UPA, là, mais ça va se dérouler à Saint-Grégoire au 55, au restaurant 55. Là.
Ouais, j'étais sans doute l'exception dans cette partie-ci du comté à coûter le débat. Il y avait un ton bon enfant, ça riait par moments. Est-ce que, à micro fermé, lorsque vous rencontrez les candidats, est-ce que c'est aussi l'atmosphère qui règne?
Oui, franchement, là, cette élection-ci, on a fait une campagne, puis on... Tu sais, c'est drôle, hein, la politique, c'est même si t'as pas les mêmes idées et tout ça, tu développes une espèce d'amitié dans le sens que on se rencontre, salut, puis la campagne, ça va bien, puis on discute, puis quand tu avais des annonces publicitaires, ben on se taquinait. Ça a été une chance, il n'y a pas eu d'insultes d'aucune manière. Ça a été vraiment là, que chacun essayait de, comme on dit, de plugger son programme. Oui, allô?
Oui, M. Plamondon. Donc, les sondages actuels rendent probable de plus en plus l'élection d'un gouvernement minoritaire. On s'entend généralement pour dire que ce n'est pas un scénario qui est souhaitable là, parce que ça empêche le gouvernement, le parti élu de pouvoir gouverner avec les coups des franches. Également, bien, ça nous ramène en élection quelques mois plus tard. Mais est-ce qu'on doit comprendre que pour le Bloc québécois, ce serait présentement le scénario idéal?
Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Un gouvernement minoritaire, c'est là que généralement là, il fait plus de progrès là, dans le sens que il est plus à l'écoute des autres partis forcément et généralement il répond mieux aux attentes. Il peut pas se permettre de passer n'importe quoi là. Il répond mieux aux attentes de la population. Il doit en tenir compte. Et vous vous rappelez, il y a eu des gouvernements minoritaires un gouvernement minoritaire qui a duré plus de 3 ans. Donc c'est pas vrai que c'est forcément l'attitude du Bloc québécois dans un gouvernement minoritaire, c'est d'essayer à chaque occasion d'obtenir des amendements qui favorisent le Québec ou d'obtenir des gains pour le Québec lors des dépôts de budget, par exemple. Et on a très bien réussi lorsque c'est arrivé et sans provoquer d'élection. Je vous dirais que dans le dernier gouvernement minoritaire, 70% du temps, le Bloc a voté avec le gouvernement parce qu'il obtenait pas à 100% de ce qu'il demandait, mais un petit amendement, un ajout qui faisait en sorte que c'était le projet de loi devenait acceptable. Il proposait des choses. Je me rappelle, M. Duceppe, dans le temps, s'était élevé, avait traversé la Chambre, avait dit à M. Harper, au niveau, par exemple, des groupes criminalisés, pourquoi on n'inverserait pas la preuve, c'est-à-dire que on a de la misère à faire des arrestations puis des condamnations parce que il faut prouver que le type a acheté toutes ces choses avec de l'argent noir. Alors que là, c'est l'inverse. C'est lui qui doit prouver qu'il l'a fait avec de l'argent correct. J'hésite toujours maintenant à dire l'argent noir ou le... c'est pas un terme qui est accepté. Je me rappelle toujours Makakoto, qui était député d'Afrique du Bloc, une fois, j'avais parlé d'argent noir, il m'avait dit, mon cher confrère, cessez de parler d'argent noir et je cesserai de parler de blanchiment d'argent.
j'aimerais qu'on aborde le Bloc québécois. On sait exprimer le désir de travailler avec l'actuel gouvernement à Québec, le gouvernement de François Legault, sur différents dossiers. Vous avez peut-être entendu M. Reyes, en fin de semaine dernière, mettre en doute cette volonté-là et dire qu'au lendemain des élections, le Bloc québécois allait retourner sa veste et travailler pour le Parti québécois. Quelle est votre réaction à cette déclaration?
On a toujours travaillé pour les intérêts du Québec, toujours travaillé pour le gouvernement en place. M. Charest, à l'élection 2004, avait dit pendant la campagne électorale qu'il trouvait que le Bloc faisait un excellent travail. Alors, on était dans une situation de gouvernement majoritaire. Donc, et le gouvernement libéral, le dernier gouvernement libéral au Québec, là, avant le gouvernement Legault, a proposé des choses qui, par exemple, dans le domaine de la santé, on s'est levé en chambre, on était seulement 10, là. Et puis, on a défendu la position du ministre Barrette, qui voulait que l'indexation en santé soit de 6% et non pas de 3%, parce que les conservateurs l'avaient coupé de 6 à 3, puis les libéraux avaient promis de changer ça, puis non, il demeurait à 3 % d'indexation. Alors, on défendait la position du gouvernement du Québec. On a toujours défendu le gouvernement, les positions du gouvernement du Québec en place, parce que, généralement, ces positions-là étaient des demandes unanimes de l'Assemblée nationale.
Monsieur Plamondon, avec une victoire, ce serait, vous saurez nous corriger, là, mais les recherches tentent de démontrer que ce serait un 11e mandat. Ça vous permettra d'atteindre une marque que personne, aucun député francophone a atteint dans l'histoire, la vie parlementaire à Ottawa. Il y a ça d'une part. D'autre part, le Bloc se relève de moments de tempête, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui est de ces deux éléments-là, ou c'est peut-être la combinaison des deux, vous saurez nous le dire, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer à nouveau dans cette campagne électorale, parce que après une brillante carrière, vous auriez pu décider de faire un pas en arrière et de laisser passer quelqu'un d'autre et représenter le Bloc québécois dans Bécancour-Nicolas Sorel?
Oui, c'est la passion avant tout, là. Mais c'est vrai, effectivement, moi je travaille pour 1 000 $ par année, si je considère la pension de député, la pension de professeur et la régie des rentes du Québec. Mais c'est une passion, et aussi c'est l'arrivée de M. Blanchet. J'étais un de ceux qui l'ont rencontré le premier et qui l'ont convaincu de devenir chef. J'avais énormément confiance en cette personne, puis ça s'avère un bon choix. Et au moment où tu vas demander à quelqu'un de se présenter, de venir, qu'on fait une belle équipe, qu'on va travailler ensemble, etc. Tu veux pas dire le lendemain, bon, ben, OK, l'acteur ne me présente plus, je le laisse tomber. Non, j'ai travaillé avec lui pour le faire élire, premièrement, comme chef, parce qu'il y avait une possibilité de 2 candidats. Et puis, deuxièmement, après cela, ben, il fallait le soutenir. J'ai travaillé très fort sur la campagne de financement au point de vue provincial. J'ai accepté que, par exemple, que le congrès se tienne à Sorel-Tracy, puisque la fondation s'était faite à Sorel-Tracy la première fois. Ben là, on a fait un grand congrès précédent, cette élection-là, à Sorel-Tracy, et toute l'organisation a été faite par des bénévoles de ma région. Ça a été énormément d'organisation, mais j'ai mis tous les efforts possibles. Alors, la piqûre était là, il fallait continuer. Il n'était plus jamais pensé un instant à ne pas me représenter.
Il y a deux enjeux majeurs qui se démarquent au cours de cette campagne-là, dans la région, ici dans Bécancour-Nicolas Sorel. L'un d'eux, c'est la problématique de la pénurie de main-d'œuvre. Ça nous est ramené par plusieurs entreprises. Comment proposez-vous, justement, de contrer ce problème-là?
Il y a deux façons. D'abord, c'est l'immigration est très importante. Alors, il faudrait pouvoir faciliter. Je donne l'exemple d'un monsieur, un Français, là, qui était à Nicolet, arrivé ici avec un permis de travail avec son épouse. Il a commencé à travailler, est devenu directeur de la petite usine de 15 employés. Et puis, tout à coup, il a demandé son renouvellement de permis. Quand tu demandes ton renouvellement de permis pour 2 ans, c'est tout à fait correct, mais il faut aussi que tu aies un renouvellement de numéro d'assurance sociale. Et là, on ne lui a pas renouvelé son numéro d'assurance sociale, parce que pour avoir son numéro d'assurance sociale, il fallait qu'il ait son permis, son renouvellement de permis, puis le renouvellement de permis sont rendus au mois de mai, des renouvellements de permis, puis on est rendu, puis lui, ça finissait en septembre, son permis. Et en plus, son épouse, qui était diplômée en soins de santé, n'avait pas le droit de travailler, et pire que ça, sur son document, c'était marqué « interdiction de faire du bénévolat ». Des folies semblables en administration, c'est épouvantable. C'est pour ça que le gouvernement Legault demande le transfert de la responsabilité pour ce qui est, justement, des travailleurs étrangers. Et il faudrait pouvoir aussi donner la résidence permanente plus rapidement comme condition pour venir en région. Autrement dit, celui qui vient au Québec saurait qu'il ne se ramassera pas dans un ghetto à Montréal, mais qu'il aura l'obligation de travailler 2-3 ans, par exemple, en région, pour s'intégrer, et avoir sa résidence permanente plus rapidement que s'il attendait selon les normes actuelles. Donc, au niveau de l'immigration, il y a un gros travail à faire, et aussi dans les diplômés. La plupart des jeunes s'en vont dans les 4 universités de Montréal pour pouvoir travailler, pour pouvoir étudier, puis font des stages dans des compagnies, demeurent là-bas. Mais si on leur donne un crédit d'impôt, par exemple, pour les 3 premières années, si tu viens travailler en région, tu paieras que 50 % d'impôt. Alors, ils seraient tentés, parce qu'ils ont des dettes d'études et tout ça, ça leur donnerait une bonne motivation pour venir travailler en région. Et là, il prendrait le goût de la région, puis il resterait. Il y a toutes sortes de petits moyens comme ça. Il y a aussi, par exemple, une modification à l'assurance chômage qui pourrait être faite pour les personnes du troisième âge. Si quelqu'un, est depuis 2 ans, est à la retraite, a pris sa retraite à 58 ans, tout à coup, ça y tenterait. Il y a beaucoup d'emplois à temps partiel, hein, qu'on appelle saisonniers, ou des roches là, dans des compagnies. Alors, il pourrait aller travailler, mais quand il y va, lui, il n'a pas le droit au chômage parce que ça y prend 900 heures comme s'il était un tout nouveau pour la première fois sur le marché du travail. Alors, s'il y avait les mêmes conditions, 600 heures ou 630, là, ça varie, eh bien, il pourrait y aller, tirer le chômage, faire peut-être 3-4 ans et ça donnerait énormément d'espace puis de vitalité à nos entreprises, y compris les entreprises saisonnières. Comme par exemple les magasins qui ont des gros rushs à l'automne, puis ensuite c'est plus tranquille dans d'autres circonstances, des clubs de golf, etc.
Monsieur Plamondon, je pense que Jocelyn aurait aimé vous entendre parler sur l'environnement, qui est un autre thème qu'on a beaucoup abordé, mais le temps, vous êtes...
La gestion de l'offre également.
La gestion de l'offre.
Ah oui, de l'offre, nous, on dit qu'il faut déposer un projet de loi immédiatement pouvoir empêcher le gouvernement de négocier d'autres traités, parce qu'il est présentement en train de négocier avec le Brésil, les pays là, du Sud, là, une entente pour la volaille puis pour les œufs. Et là, la ministre a déclaré qu'elle ne pourra pas s'engager immédiatement. Ça toucherait à la gestion de l'offre ou pas. Il faut absolument qu'il y ait un projet de loi qui empêche les négociateurs et le gouvernement de toucher à la gestion de l'offre dans tout nouveau traité. Je vous rappelle qu'il y a eu 16 traités pendant que le bloc était à 5 ans à Ottawa et jamais on n'a touché à la gestion de l'offre pour ces traités-là.
Bien, c'est ce qui complète le temps qui nous était alloué ce matin, Louis Plamondon. En fait, on vous laisse aussi, comme c'était le cas avec le candidat du Parti vert hier et les autres à venir, les 30 prochaines et dernières secondes, Monsieur Plamondon, vous m'entendez bien pour vous adresser directement à l'auditoire et dire pourquoi il devrait vous appuyer le 21 octobre.
Eh bien, je pense que on a eu une belle complicité au cours des dernières années. On a travaillé ensemble, j'ai été un député présent, je pense disponible, efficace, et je veux continuer avec la même intensité et la même passion. Alors, je souhaiterais, bien sûr, recevoir votre appui. Je vous invite cependant à faire la réflexion et au moins, et surtout, d'aller voter. C'est un geste démocratique extraordinaire auquel on peut participer dans notre beau Québec et aussi dans le Canada.